Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie en direct ou en podcast sur l'appli France Inter. Et ce matin, on s'intéresse à la marchandisation de la procréation, un enjeu à la fois éthique, sociétal et financier, qu'il s'agisse de mères porteuses, de procréation médicalement assistée, commercialisée à l'étranger pour des personnes qui n'y ont pas droit en France, ou encore de la vente de sperme sur Internet, zoom sur la fabrique des bébés en partenariat avec l'Obs. Nous attendons vos questions et témoignages au standard d'Inter 01 45 24 7000 par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Vous voyez, votre utérus est prêt à recevoir l'implantation.
Oh, je savais, je me suis sentie très épaisse ce matin.
Bah alors, qu'est-ce qu'on attend? Allez chercher l'œuf et mettez-le là-dedans.
Attendez, on va le faire. Il faut juste nous laisser le temps de préparer les embryons.
Oui, d'ailleurs, je me demandais combien de chances est-ce qu'on aurait si on lui implantait 200 embryons d'un coup.
Chérie, écoute, c'est une femme, pas un distributeur automatique.
Oui, bon, surtout ne vous inquiétez pas. Sachez que je suis prête à refaire l'expérience autant de fois qu'il le faudra, d'accord?
Alors. C'est gentil, seulement l'ennui, c'est. On peut le faire qu'une seule fois.
Oui, parce que il faut que tu saches que chaque tentative coûte 16 000 dollars. Alors, comme on a réuni tout l'argent qu'on avait, on ne pourra le faire qu'une seule fois.
Ah oui, c'est une énorme responsabilité pour moi et mon utérus.
Un extrait de la série américaine Friends avec le personnage de Phoebe, mère porteuse de son frère et de sa belle-sœur. Bonjour Natacha Tatu.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes grand reporter à l'Obs et vous publiez La fabrique des bébés chez Stock. C'est une enquête sur le monde de la procréation assistée, mais c'est aussi une enquête sur les mères porteuses à travers le monde. La gestation pour autrui, hein, c'est un sujet tabou, une ligne de fracture sociétale. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous pencher sur le sujet ?
Alors écoutez, c'est une enquête qui a commencé en 2012. Alors à l'époque, je vivais aux États-Unis, j'étais correspondante de l'Obs. Et la France était plongée dans un débat sans fin sur le mariage pour tous. Alors on discutait de mariage pour tous, mais en toile de fond, c'était bien sûr la question de l'homoparentalité, de la gestation pour autrui, qui était l'épouvantail absolu, qui était brandi. Alors vu des États-Unis, tout ça était un peu surréaliste. Hein, parce que ce que j'ai découvert, c'était qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui sont des sujets. L'IVG peut être un sujet, éventuellement l'homoparentalité peut être un sujet dans certains états un peu ruraux, mais la GPA, globalement, ne l'est pas. D'ailleurs, on le voit dans l'extrait que vous avez diffusé. La GPA, c'est un sujet assez mainstream, comme ils disent, qui fait l'objet de séries télévisées, qui fait l'objet de... Voilà, c'est quelque chose qui est rentré dans le paysage. Je vous donne juste un petit exemple, peut-être. À l'époque, on était en pleine campagne présidentielle et le fils du candidat républicain, Mitt Romney, à l'époque, est un mormon convaincu, très religieux, très croyant, a tweeté un message pour remercier sa merveilleuse mère porteuse qui lui permettait d'être père pour la énième fois. Et personne n'y a rien trouvé à redire. Tout le monde a félicité Mitt Romney, a félicité sa femme, a félicité la mère porteuse. Voilà, c'était formidable.
Alors, votre enquête, Natacha Tatu, débute en France. Un soir de 2014, dans le salon d'un palace parisien, en toute discrétion, une agence américaine de gestation pour autrui organise une campagne de recrutement. Alors, il y a beaucoup de couples d'hommes hein, dans la salle. Tout est bien rodé, brochures luxueuses, argumentaire commercial en béton. Une gestation pour autrui qui coûte cher, entre 110 000 et 130 000 dollars, voyages et faux frais non compris. Et c'est pour vous une question qui n'est pas forcément morale. C'est pas parce qu'on paye que c'est mal.
Ça, c'est vraiment une approche très française. Dès lors qu'il y a argent, il y a marchandisation. Et dès lors qu'on parle marchandisation, le sujet devient diabolisé. Aux États-Unis, on a une approche très différente. On estime simplement que la médecine a un coût. Qu'en France, on choisit de cacher parce qu'on a une sécurité sociale, parce qu'on a des bonnes mutuelles, etc. Aux États-Unis, personne n'a de problème à parler du coût de la médecine. Et effectivement, la GPA est chère, coûteuse, il y a une rémunération. Juste, si je peux faire une incise, des parents intentionnels qui avaient rémunéré une mère porteuse, indirectement hein, via une agence, mais me disaient le don qu'elle nous a fait est extraordinaire, rien ne pourra jamais le compenser, et au moins ce petit échange financier, petit entre guillemets, me permet d'être dans une relation un petit peu plus équitable avec elle.
Qu'est-ce qu'on risque en France si on fait appel à une mère porteuse? Parce que la réunion dont vous parlez dans votre ouvrage est totalement illégale.
La réunion est illégale, tout le monde le savait ce soir-là. Celui qui l'a organisée, qui est un directeur d'une agence aux États-Unis, d'une très importante agence et lui-même avocat, le savait parfaitement. Il l'a dit aux personnes qui étaient dans la salle. Le couple qui venait témoigner ce soir-là de sa propre expérience avec ses deux jumelles le savait également. Mais la vérité, c'est que, alors il risque 2 à 3 ans de prison, techniquement, si on s'en tient au code pénal, il risque 40 000 euros d'amende, je crois. 30 000 pour ceux qui en font la publicité et jusqu'à 45 000 pour ceux qui auraient recours directement au service d'une mère porteuse. C'est considéré, je crois, comme une incitation à l'abandon d'enfants. Mais la vérité, c'est qu'on voit bien que ces barrières juridiques freinent assez peu la demande de gestation pour autrui, parce que comme le disait le directeur de cette agence, le désir d'enfant est quelque chose d'irrépressible.
Bonjour René Friedman, professeur René Friedman. Bonjour. Bienvenue.
Oui.
Vous êtes gynécologue obstétricien, vous êtes le père du premier bébé éprouvette en France, et vous publiez un manifeste qui dénonce les blocages et les incohérences qui entravent la médecine procréative. Ça s'appelle Le droit de choisir au seuil, on y reviendra tout à l'heure. Quelle est votre position, René Friedman, sur le recours aux mères porteuses?
Ben écoutez, c'est totalement à l'opposé de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que je pense que l'Amérique n'est pas du tout un modèle. De même que ce qui se passe dans certains pays où des enfants sont utilisés pour le travail, c'est pas parce que c'est fait ici qu'il faut le faire. De même qu'il y a des pays où le don d'organes est rémunéré et en tous les cas passé sous silence, il nous faut réfléchir de nous-mêmes et pas être aspirés par un modèle qui est fortement inégalitaire comme les États-Unis, qui va aller d'ailleurs de plus en plus, vu la différence qu'il y a entre les riches et les pauvres, qui s'accroît. Donc la réflexion doit se mener en toute liberté. Et le problème, il est le suivant. Est-ce qu'effectivement, il est logique d'aliéner une femme qui fait cette démarche pour un problème financier, donc une commercialisation de son corps? Effectivement, c'est un point que personnellement, je n'accepte pas. Et donc, je m'oppose à toute forme d'aliénation, de commercialisation. Même si le désir d'enfant est fort, on ne doit pas passer par-dessus toutes les réflexions pour y répondre. Il y a toujours des échecs. Et le désir d'enfant n'est pas la loi suprême qui doit aboutir à une mainmise sur le corps des femmes.
Bonjour Geneviève. Alors, on y reviendra tout à l'heure, hein, René Friedman. On accueille Geneviève Delizy de Parseval. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et spécialiste en bioéthique, auteur notamment de L'enfant à tout prix et de Voyage au pays des infertiles. Êtes-vous favorable à la gestation pour autrui?
J'y suis.
Est-ce que vous êtes d'accord avec René Friedman?
J'ai une position intermédiaire entre celle de René Friedman et de Natacha Tatu. Premier point, le mot de marchandisation.
Je sais, ça vous gêne.
Me gêne.
Pourquoi?
Oui. Parce que il y a une connotation d'achat d'enfant. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Toute la médecine, toute la PMA est un business, non pas pour les médecins, mais pour l'ensemble du système. Il suffit d'aller dans un congrès médical sur la PMA, vous traversez une forêt de stands de laboratoires pharmaceutiques qui vendent leurs médicaments. La gestation pour autrui, moi j'appelle ça la maternité pour autrui, pose un problème effectivement compliqué, parce que il est très nouveau, il date de l'apparition de la FIV grâce à Friedman. Ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la maternité. Alors, dans la position de René Friedman, si je comprends bien ce que tu dis, mais je crois que je comprends, la maternité se résumerait à la grossesse et à l'accouchement. Pour moi, psychanalyste, et je pense que pour tous les psychanalystes, la grossesse, n'est pas l'alpha et l'oméga de la maternité. La maternité est un processus physiologique, évidemment, mais aussi psychique, qui déborde très largement ces 9 mois. Moi, j'écoute depuis 40 ans à peu près des femmes enceintes, et je peux vous dire que la maternité, il y a des femmes enceintes qui vivent très bien leur grossesse, qui sont de très mauvaises mères, à l'inverse des femmes enceintes qui ont des grossesses tout à fait catastrophiques et qui sont d'excellentes mères.
René Friedman, très vite, il existe une marchandisation de la procréation.
Non, mais d'abord, je veux dire, on ne peut pas confondre un laboratoire qui a un prix fixé dans un pays où il y a une sécurité sociale avec une commercialisation où il y a une tonne d'intermédiaires où ce n'est pas du tout la même chose, puisque là, on va acheter un médicament et là, on vend son corps. Donc on ne peut pas mettre ça sur le même plan. La maternité, bien sûr que c'est plus compliqué, puisqu'on accepte volontiers le don d'ovocytes. D'ailleurs, on a un discours disant que c'est pas parce que c'est un ovocyte qui vient d'une autre femme que ça sera pas votre enfant quand même. Et l'adoption est là pour montrer effectivement que la maternité ne peut pas se résumer à la grossesse et à l'accouchement. Néanmoins, ce qu'il importe de se poser la question, à mes yeux, en tous les cas, la question fondamentale, y a-t-il une exploitation? Y a-t-il une utilisation dans tous les processus que l'on propose?
On y reviendra tout à l'heure, René Friedman. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Il est temps de retrouver la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou pour dépenser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pub, elle reste en bas.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Cette semaine, dans votre petite philo de la pub et des marques, coup de projecteur sur la campagne de pub d'Evian qui met en scène des bébés.
Observons l'effet d'Evian sur votre organisme. Evian, déclaré source de jeunesse par votre corps. Boire chaque jour une eau pure et équilibrée en minéraux entretient la jeunesse de votre corps.
Vivons jeunes.
Voilà, même si on n'aime pas la publicité en général, eh bien je crois qu'il est assez difficile de ne pas sourire ou de ne pas être amusé par les spots donc de la marque Evian qui mettent en scène donc justement des bébés. Alors souvenez-vous des bébés qui faisaient du roller, hein, les Roller Babies, ou la dernière campagne en date, la Baby Bay avec des baby surfeurs. Evian investit beaucoup dans sa communication et pourtant en France par exemple, Evian n'est pas leader sur le marché de l'eau minérale. Le leader c'est Cristaline, voilà, qui ne fait quasiment pas de publicité mais dont le prix est nettement inférieur. Alors pourquoi est-ce que la marque Evian dépense-t-elle autant d'argent en publicité? Eh bien pour l'image, pour ce qu'on appelle en publicité justement la notoriété. Evian, ce n'est pas la première marque d'eau en termes de vente, mais c'est celle que les Français préfèrent. C'est celle pour laquelle ils ont la meilleure image. Et l'image pour une marque, eh ben c'est le fond sur lequel on peut tout bâtir.
Et cette image, elle repose donc sur les bébés.
Oui, depuis quelques années, Evian a refondé toute sa communication sur une promesse simple, la jeunesse. L'eau minérale, par le tour de force de la mise en scène publicitaire, devient élixir de jouvence. Et l'expression créative de cette promesse va donc du côté un peu de l'hyperbole, de l'exagération. Et donc on propose carrément la mise en scène de bébés faisant du roller ou du surf. Et puis tout le discours de la marque, sur les réseaux sociaux, sur son site internet, tourne autour de ce qu'ils appellent l'esprit live young, voilà, vivre jeune, avec cette idée qu'il n'y a pas d'âge pour être jeune, que la jeunesse est un état d'esprit, un émerveillement de tous les jours, et ils nous invitent même, Ali, à retrouver le bébé qui est en nous. Alors voilà, c'est très créatif, c'est amusant, et c'est finalement assez séduisant.
Mais je ne vous sens pas complètement convaincu.
Eh ben oui, vous avez raison, pas tout à fait, parce que ce discours de marque pose un problème philosophique autour justement de ce désir de jeunesse. Dire qu'il n'y a pas d'âge pour être jeune, dire, comme on l'a entendu au début dans le spot de pub, que l'eau d'Evian entretient la jeunesse de notre corps, ça revient à faire de la jeunesse un désir contradictoire. De son côté, le vieux philosophe Épicure distinguait deux grands types de désirs, les désirs qu'il est possible de satisfaire et les désirs impossibles à satisfaire. Et la clé du bonheur, disait Épicure, c'est d'éliminer les désirs impossibles et de se concentrer sur les désirs qui, eux, sont possibles à satisfaire. Voilà, boire de l'eau, c'est un désir naturel, indispensable à la vie et qu'il est donc tout à fait possible de satisfaire. Mais le désir de rester jeune ou d'entretenir sa jeunesse en buvant de l'eau d'Evian, eh ben, c'est un désir impossible. Pourquoi ? Parce que le propre de la jeunesse, surtout celle du corps, c'est de n'être qu'un passage. La jeunesse, d'ailleurs, n'est jeunesse que parce qu'elle passe et qu'elle devient ensuite maturité puis vieillesse. On ne peut donc pas entretenir sa jeunesse, encore moins la retrouver, parce que la jeunesse a bien un âge. La jeunesse passe donc, et l'ironie même, c'est qu'on en sort quand on accepte justement qu'elle puisse passer. Evian nous promet donc une jeunesse prolongée, une jeunesse à retrouver, et entretient par là surtout cette idée qu'il vaut mieux être jeune. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que nous désirons vraiment, comme autant de petits Peter Pan, ne pas vieillir? Alors certes, quand on est jeune, on a, comme on dit, la vie devant soi, tout un champ de possibles qui s'ouvre, mais il faut bien que la jeunesse passe et que des choix soient faits pour que l'on puisse être acteur de son existence, en construire le sens et précisément en supporter le temps qui passe. Alors, retrouvons le vieux Épicure, encore une fois, et sa sagesse. Rien ne sert de désirer rester jeune parce que finalement, le plaisir, lui, il n'a pas d'âge. Il faut juste apprendre à le reconnaître et à le cueillir.
La petite philo de la pub et des marques tous les jeudis avec Thibaut de Saint-Maurice. J'essaie de vous imaginer en bébé philosophe.
C'est ça, j'essaie de retrouver le bébé qui est en moi.
Vous avez déjà la barbe?
Ça, je suis né avec des lunettes.
Nous attendons vos questions sur la marchandisation de la procréation. Par exemple, si vous avez eu recours à la gestation pour autrui ou si vous y êtes fermement opposé, n'hésitez pas à nous contacter au standard inter 01 45 24 7000 par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Une émission préparée par Alexia Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Théo Denmat et Clara Marliot, et c'est réalisé par Jérôme Boulet.
Ali Rebéi sur France Inter.
We built a house. We tore down. We made some noise. Yeah, we stood our ground. We ran the streets. Every night and day, we share one key to the very place where our grandma stayed. We see them coming from a mile away. But they know we going nowhere, even if we are chased. And it's true, we got no money, but we sure got.
Annie El-Khatib.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h24 et en partenariat avec l'Obs paru ce matin, on s'intéresse à la marchandisation de la procréation, comme le recours aux mères porteuses ou à la commercialisation de la procréation médicalement assistée à l'étranger, avec la journaliste Natacha Tatu, auteur de La Fabrique des bébés, de la psychanalyste Geneviève Delézy de Parseval, spécialiste en questions de bioéthique, et avec au téléphone le professeur René Friedman. Et on accueille Théophane. Bonjour Théophane.
Bonjour.
Alors vous appelez du Poitou-Charentes.
Oui, des Deux-Sèvres. Oui.
Et vous avez eu des problèmes de procréation avec votre compagne?
Oui, on a eu des problèmes de procréation. On a fait 3 inséminations artificielles et 3 FIV. Et en fait, la première chose, c'est qu'on s'est rendu compte assez rapidement que le gynécologue qui nous suivait avait des intérêts financiers dans les laboratoires dans lesquels il nous envoyait pour les examens. Donc ça, c'est la première chose qui nous a surpris très profondément. Du coup, la question de la qualité des examens se posait. Est-ce que tel laboratoire est plus compétent que d'autres? La deuxième chose, c'est qu'au bout de 3 FIV, en fait, en France, la législation dit qu'on ne peut pas faire plus de 4 FIV. Il me semble que c'est 4 FIV maximum. Et donc, on s'était renseigné pour éventuellement aller en Espagne, où les FIV sont possibles sans, il me semble, il n'y a pas de limite, contre 2000 euros.
Vous en êtes donc, où, Théophane?
Alors, on a eu 2 enfants depuis, naturellement, en fait, qui sont nés naturellement. Voilà.
René Friedman, je rappelle que vous publiez Le droit de choisir, un manifeste des médecins et biologistes de la procréation assistée. Que vous inspire le témoignage de Théophane?
Ben, écoutez, d'abord, on pourrait dire que Le droit de choisir, c'est un livre qui est signé par 200 médecins biologistes qui pointent au moins 4 blocages de la prise en charge de la procréation médicalement assistée en France pour des incohérences. Je pense qu'on reviendra dessus. puisque c'est surtout ce cri de colère un peu qui a été donc publié par Le Seuil.
Quels sont les grands blocages, René Friedman ?
Alors les grands blocages, c'est l'impossibilité que nous avons d'étudier le potentiel de développement des embryons. Alors, vous savez que 60%, d'ailleurs, les trois échecs que la personne qui parlait faisait mention
étaient peut-être
liés à cela. C'est-à-dire que 60% des embryons et 70% à 80% selon l'âge de la femme ne vont jamais s'implanter. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas parce qu'on ne nous laisse pas examiner l'embryon alors qu'on pourrait le savoir. Et donc, on fait des tentatives pour rien, des congélations pour rien ou qui aboutissent à des non-implantations, à des frustrations ou à des fausses couches à répétition. Ça, c'est donc le premier blocage, de pouvoir étudier avant le transfert des embryons dans certaines circonstances, alors que toutes les femmes qui sont enceintes, les 800 000 femmes qui sont enceintes par an, peuvent très bien, au troisième mois de la grossesse, ou à la 10e semaine de grossesse, faire une prise de sang et avoir une information sur le développement de leur fœtus sur le plan chromosomique. Donc là, il y a une grosse incohérence. Le deuxième point, c'est surtout la liberté que devraient avoir les femmes d'auto-conserver leurs ovocytes, ce qu'elles ne peuvent pas faire en France, sauf si elles ont un cancer, ce qui est quand même un peu lourd comme démarche, ou sauf si elles veulent donner, mais si elles donnent la moitié de leurs ovocytes dans le cadre du don, ou bien, et là, l'autre moitié pour elles, ce qui amoindrit les résultats du don et amoindrit les résultats pour elles-mêmes. Et le principe même de savoir pourquoi est-ce qu'on s'oppose à l'autoconservation reste quand même problématique, vu que les hommes, si je fais une ordonnance à un homme pour qu'il conserve son sperme dans un laboratoire agréé, eh bien, il va pouvoir le faire sans aucune démarche particulière.
René Friedman, sur le cas de Théophane qui a failli partir en Espagne.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que
ça
en fait,
parce
qu'en fait, en fait, ça contribue à la marchandisation de la PMA, le fait qu'on aille en Belgique, en Espagne.
Attendez, on va quand même remettre les choses. D'abord, je suis content qu'il y ait eu une grossesse ou deux grossesses, si j'ai bien compris, spontanées, ce qui montre bien que peut-être il y a des études à faire pour bien comprendre le cas par cas. Deuxièmement, la France est l'unique pays au monde qui rembourse 4 tentatives. Il faut quand même que nos compatriotes se rendent compte de cela, au point même que je me demande si c'est vraiment une bonne attitude, parce qu'elle ouvre un peu une espèce de droit à l'enfant qui peut se discuter. Quoi qu'il en soit, la sécurité sociale française donc rembourse 4 tentatives. Si vous regardez autour de vous en Europe, et bien sûr aux États-Unis qui ont été montrés tout à l'heure, il n'y en a aucun remboursement, mais en Europe c'est un ou voire deux remboursements et encore.
René Friedman, donc, vous écrivez vous-même que vous êtes devenu, et certains de vos collègues également, un agent d'aiguillage en envoyant vos patients en Espagne ou en Belgique.
Non, c'est pour les situations que l'on pointe là, les quatre situations bloquées, particulièrement pour le don d'ovocytes, qui était le troisième point que j'allais vous aborder, et puis l'autoconservation qu'on ne peut pas réaliser. Donc effectivement, les couples, dans ces cas-là, mais la PMA, on peut la faire en France, on a un système super, et on a une centaine de centres, donc quand même...
J'aimerais que Geneviève Delezy de Parseval réponde à Théophane, au témoignage de Théophane.
Oui, ce que dit Théophane est très intéressant, parce que René Friedman, il y a une vingtaine d'années, parler des pochettes surprises de la FIV. Il a fait plusieurs, sa femme a fait plusieurs FIV, et finalement les enfants sont conçus naturellement. C'est un point sur Théophane. Mais si on peut revenir deux minutes à la maternité pour autrui.
On y reviendra tout à l'heure, Geneviève Delezy.
Bon, je voulais juste parler de Théophane.
Natacha Tatu, sur le cas de Théophane.
Non, enfin, ça pose un certain nombre de problèmes. Ça montre bien, en tout cas, que c'est un marché mondial, et qu'effectivement, en France, c'est gratuit. Mais ce qui est gratuit aussi, c'est le fait de donner ces ovocytes. On ne peut que les donner. Or, je crois que c'est un acte médicalement qui est lourd. Ça implique une anesthésie, ça implique des piqûres hormonales. Et honnêtement, demander à une femme de donner ses ovocytes pour rien, c'est magnifique, c'est très généreux, mais il ne faut pas s'étonner qu'on en manque cruellement en France. Et c'est la raison pour laquelle, en Espagne, elles sont rémunérées à hauteur de 900 euros. Et la réalité, c'est que l'Espagne ne manque pas de donneuses.
Geneviève Delezy,
oui,
de Parseval.
Je voulais juste dire, ça va dans le sens de Natacha Tatu, mais sauf que ce terme me gêne parce qu'il s'agit d'un dédommagement. effectivement, il y a une sorte de pressium doloris, le prix de la douleur. On se demanderait pourquoi une femme comme ça irait subir des examens, un traitement lourd et qui n'est pas sans risque, pour rien. Donc en France, on lui rembourse son ticket de métro. C'est tout de même un peu ridicule. Le fait de la dédommager à hauteur de 1000 euros, dans la mesure où elle le fait que deux ou trois fois dans sa vie, ça ne me paraît pas scandaleux.
Théophane, est-ce qu'on a répondu à vos interrogations ?
Plus ou moins, en fait, plus ou moins. La première chose, la première question, moi, quand même, que je me pose, c'est d'abord la politique européenne, l'homogénéisation des politiques européennes concernant les FIV. À quand une homogénéisation des choses, quand même? Voilà, ça éviterait quand même une marchandisation, au moins, au sein de l'Europe. Voilà. Après, il y a vraiment cette question des laboratoires, pour moi, qui est vraiment une question essentielle. Je vous le redis, les médecins nous envoyaient dans des laboratoires où ils avaient des intérêts, ou dans des cliniques où ils avaient des intérêts financiers directement. Et donc, comment ça fait un moment qu'il n'y a pas un contrôle aussi sur ces choses-là? Et en fait, quand on est en procédure PMA, on est fragilisé très fortement dans ce qu'on est. Et donc, les médecins, à un moment, devraient aussi nous prévenir de tout ça, en fait. Ça fait partie, pour moi, du travail de médecin. Voilà.
Merci beaucoup, Théophane, de nous avoir appelé du Poitou, Charente. Alors, Natacha Tatu, votre ouvrage, La Fabrique des bébés, c'est une enquête sur les mères porteuses à travers le monde. Comment ça se passe une fois qu'on a décidé d'y avoir recours? Quand, par exemple, on passe par une agence américaine, c'est évidemment illégal en France. Hein.
Oui, c'est illégal en France et c'est souvent quand il s'agit de ramener le bébé en France que les problèmes se posent, les problèmes juridiques.
Alors, ça se pose aussi avant, quand par exemple il faut se mettre d'accord sur l'essentiel et sur les détails.
Ah bien sûr, entre, ça c'est un autre sujet.
Entre
bien
les
sûr.
Demandeurs et
absolument.
La mère porteuse.
Absolument, alors ça c'est un sujet, c'est un volet qui m'a particulièrement intéressé au cours de cette enquête, c'est les relations entre la mère porteuse et les parents d'intention. C'est une relation très complexe, moi j'ai trouvé ça assez fascinant. Évidemment c'est très variable en fonction du pays où la GPA a lieu, mais ce qui m'a vraiment intéressée et étonnée, je dois le dire, aux États-Unis, c'est l'immense fierté que ressentent ces femmes, dans leur grande majorité, quand elles sont gestatrices. Moi, comme tout le monde, j'avais beaucoup de préjugés avant de démarrer cette enquête. Je pensais que c'était des pauvres filles acculées, dans le besoin, mères célibataires, sans éducation, mais pas du tout. Et honnêtement, le professeur Friedman disait que je montrais les États-Unis comme un modèle. Pas du tout. Je peux tout à fait pointer un certain nombre de choses qui peuvent être dérangeantes, gênantes, mais j'essaie de dresser le tableau le plus clair de la situation pour que les gens se fassent une idée à peu près juste du sujet. Et honnêtement, cette fierté incroyable que ressentent les femmes à porter ces enfants m'a réellement surpris et beaucoup intéressée.
Fierté, mais l'aspect financier est quand même important.
L'aspect financier est important. Elle touche sur une GPA qui coûte, on va dire à la louche, 100 000 euros.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis, elles vont toucher 20 000 euros. Ce n'est pas quelque chose qui va changer leur vie. C'est quelque chose qui va leur permettre peut-être de mettre de côté un peu d'argent pour les études de leurs enfants, de refaire leur cuisine. C'est un dédommagement, ce n'est pas une rémunération. Et d'ailleurs, en général, les agences s'assurent que ces femmes ne comptent pas sur cet argent pour survivre. C'est un plus dans leur vie, elles ne le nient pas, elles ne le regrettent pas.
Mais ce n'est pas le cas en Inde ou en Ukraine.
Alors, non, en Inde, elles le font clairement pour l'argent. Est-ce que c'est pire pour autant? Je n'en suis pas sûre. À titre très personnel, si vous me posiez la question, je comprends mieux les Indiennes que les Américaines. Mais nonobstant, les Américaines sont très contentes de faire ça.
Geneviève Delézy de Parseval, que sait-on des motivations profondes des mères porteuses ?
Eh bien, votre question est très intéressante dans la mesure où on retrouve dans leur motivation. Moi, j'ai fait une étude au Canada sur les mères porteuses où c'est légal et en France aussi. Cette fierté que pointe Natacha Tatu est extrêmement juste. Elles ont quelque chose, comme tous les donneurs de produits du corps humain, les donneurs de sperme, les donneuses d'ovocytes, même les donneurs de reins. Elles ont des bénéfices secondaires, c'est-à-dire qu'elles sont effectivement très... ce geste même représente une réparation d'une histoire personnelle. Par exemple, il y a une étude espagnole à laquelle j'ai participé sur les donneuses d'ovocytes. On voit que ces femmes souvent se sentent coupables d'un avortement qu'elles ont fait dans des années avant, et que c'est une réparation pour elles de donner un ovocyte. Bon, ça appartient à leur vie privée, elles ne le disent pas forcément, là elles l'ont dit dans le cadre de cette étude, mais il faut pas croire qu'on donne comme ça, on donne parce qu'on a une raison profonde, et on donne pas pour 10 000 euros, on donne parce que ça correspond à quelque chose d'important dans le domaine de la fertilité.
Natacha Tatu.
Oui, et d'ailleurs aux États-Unis, ce qui aide aussi à ce sentiment de fierté, c'est qu'elles sont valorisées dans l'opinion publique. Ces femmes sont perçues plutôt comme des héroïnes. Moi, je me souviens qu'à l'époque où je vivais aux États-Unis, sur CNN, il y avait une mère porteuse qui avait été gestatrice 7 ou 8 fois. Eh bien, on la considérait réellement comme quelqu'un d'extrêmement généreux, comme une héroïne, et comme quelqu'un qui faisait don de soi. Et ça me semble vraiment, vraiment important.
Geneviève Delezide de Perceval, vous recevez dans votre cabinet de psychanalyste des mères porteuses. Est-ce qu'il peut exister une culpabilité d'avoir monnayé son ventre ?
D'abord, je ne reçois pas dans mon cabinet des mères porteuses parce que je tomberais sous le coup de la loi.
Ah d'accord, je pensais que vous en receviez.
Non. Je reçois des parents qui ont fait appel à une mère porteuse. Et par ailleurs, dans le cadre d'une recherche, j'ai reçu un de mères porteuses, notamment d'ailleurs...
Mais est-ce que cette culpabilité d'avoir monnayé son ventre peut exister ?
Non, je ne vois pas de culpabilité. J'écoute une fierté. Et effectivement, il y a un contexte très culturel. En France, peut-être, il peut y avoir une culpabilité parce que la loi l'interdit. Mais dans d'autres pays, notamment en Espagne ou aux États-Unis, il n'y a pas de culpabilité. Il y a une fierté.
René Friedman.
Non, il n'y a pas de mère porteuse en Espagne. C'est interdit. Je pense que c'est très difficile de faire une enquête sur objective et scientifique sur les mères porteuses, car la plupart du temps, elles viennent, je dirais, volontairement, et c'est une sélection de celles qui parlent. Et je veux dire, les quelques enquêtes qui ont été faites lorsque, en France, c'était autorisé, c'est assez longtemps, c'est Monique Widowski qui avait vu, qui est psychiatre, psychanalyste, et qui avait vu un certain nombre de mères porteuses, et son appréciation n'est pas du tout la même que de ce qui est dit. Il faut faire attention lorsque les femmes sont justement, elles savent qu'elles peuvent être valorisées, c'est celles qui vont se mettre en avant. Mais celles qui sont plutôt dans la dépression ou dans l'échec de leur démarche parce qu'elles ont été rejetées soit par le couple demandeur, soit parce que, je dirais, elles se sentent effectivement exploitées, ne se manifestent que peu. Or, c'est justement parce que moi, j'ai été en contact avec ce genre d'échec total que je pense que c'est une pratique à risque énorme, et que le désir d'enfant ne justifie pas tout. Moi qui, pourtant, avec, je dirais, la publication du droit de choisir, essaie de montrer qu'on a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que la GPA n'a pas été intégrée dans nos revendications de développer la PMA correctement, parce que justement, il y a trop de risques encourus. D'abord, comme par hasard, toutes les grossesses se passent bien, alors qu'on sait très bien que 20% des grossesses se terminent en césarienne, les épisiotomies, le blues du postpartum, enfin, et j'en passe.
Et puis il y a beaucoup de grossesses multiples aussi.
Et alors, en plus, bon, il y a quand même quelques cas où justement, vaut mieux en porter deux parce qu'on va gagner plus d'argent. Donc, on arrive à des exploitations extrêmes. Et donc, je pense qu'il faut prendre du recul, faire la part de ce qui est des exemples positifs, parce qu'il y en a toujours, bien sûr, dans la vie, et je dirais qui ne doivent pas cacher les aspects négatifs. Or, ceux-là sont beaucoup plus
Geneviève
importants.
Geneviève Delezide de Perceval, Trépine, aimerait vous répondre.
Oui, j'ai écouté les premières mères porteuses organisé par le docteur Geller, plus dans les années 70, et effectivement c'était tout à fait épouvantable. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça se passait pas par FIV, il y avait une relation sexuelle directe entre le père d'intention et la mère porteuse, et effectivement c'était abominable. Maintenant, c'est tout à fait autre chose, et il est temps, je crois, dans cette émission, de dire un mot sur les mères porteuses gestationnelles, c'est-à-dire dans le cas où la mère porteuse porte l'embryon du couple d'intention. C'est pas son enfant.
Natacha Tatu.
Ce qui est la grande majorité des cas aujourd'hui.
Oui,
parce que c'est vrai que c'est pas clair peut-être pour tout le monde, mais
préciser les choses avant, Natacha Tatu.
Oui, bien sûr. Alors dans la GPA traditionnelle, ce qui se pratiquait il y a 20 ans, une femme était inséminée artificiellement ou avait une relation sexuelle avec un homme et elle portait son propre enfant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui dans la très grande majorité des cas, et que ce soit aux États-Unis, en Inde, en Ukraine ou ailleurs. L'enfant qu'elle porte, et ça c'est vraiment important pour elle, pour ses mères porteuses, est un enfant avec lequel elles n'ont aucun lien génétique. Et ça, c'est vraiment fondamental, hein. C'est une différence fondamentale.
Allez, nous attendons vos questions sur la marchandisation de la procréation au standard d'Inter 01 45 24 7000 par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook.
Ne me change pas, ne me je pars, laisse-moi chanter, on ne transforme pas, l'acier en étain, chimère courbée plus de 200 fois les chines, bâtie dans un bois qui ne plie pas. L'écorce du chêne tient, l'écorce du chêne tient, l'écorce du chêne tient. Puis soudain, soudain, crac, crac. Ne me change pas.
Esparo, ne me change pas.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
11h moins le quart sur France Inter et en partenariat avec l'Obs, paru ce matin, on s'intéresse à la marchandisation de la procréation, comme le recours aux mères porteuses, avec la journaliste Natacha Tatu, auteure de La Fabrique des bébés, de la psychanalyste spécialiste des questions de bioéthique Geneviève Delézy de Parseval, et au téléphone le professeur René Friedman, et au téléphone également Stéphanie. Bonjour ou bonsoir, vous êtes en Nouvelle-Calédonie.
C'est bien ça, oui.
Il est 20h45, c'est ça ? Quelle heure est-il ?
Exactement.
Alors, vous insurgez sur le fait qu'on ne parle de la GPA, de la gestation pour autrui, que d'un point de vue commercial.
Tout à fait. Tout à fait. Parce que, alors là, par contre, je suis d'accord, le côté commerce me choque effectivement, mais je pense qu'il y a des cas, plus nombreux qu'on le pense, où les gens souhaiteraient le faire comme un don de soi, réellement, comme on pourrait penser à donner un de ses organes à quelqu'un, voilà. Et je suis bien placée pour le dire, puisque moi j'ai souhaité le faire il y a quelques années, pour des amis.
Vous l'avez fait ?
Non.
Qu'est-ce qui vous a empêché de le faire finalement, Stéphanie ? Stéphanie, on vous a perdu, vous êtes en Nouvelle-Calédonie. On va essayer de vous rappeler. Au téléphone, Claire de Fontainebleau. Bonjour Claire.
Oui, bonjour.
Alors, quel est votre point de vue sur notre sujet du jour ?
Alors, mon point de vue, écoutez, c'est un sujet qui me paraît être un des sujets, un des enjeux de la société, de notre future société. Déjà, je suis abonnée au Allops, donc j'ai reçu le magazine ce matin. Quand j'ai vu qu'il y avait un article dessus, que du coup, je n'ai pas encore eu le temps de lire, parce que j'écoutais entre-temps votre émission a commencé. Donc, ça m'a fortement intéressée. Je suis mais profondément, philosophiquement contre cette gestation pour autrui.
Pourquoi?
Alors, déjà, parce que c'est philosophique. Ce n'est pas un... Alors, évidemment, je vais dire certaines choses que je dirais moins bien que le professeur Friedman, dont je partage les positions et les analyses. C'est le corps d'un être humain. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une marchandise. Il y a, à part les cas exceptionnels, c'est gratuitement, comme votre précédente interlocutrice de Nouvelle-Calédonie, où ça, c'est autre chose que je n'aborderai pas. Il y a des risques de décès, il y a des risques d'enfants handicapés, il y a le risque que la mère s'attache au bébé. Il y a beaucoup de risques. On ne parle que des cas où ça se passe formidablement bien, mais tout ne se passe pas formidablement bien. Il y a d'ailleurs des cas qui ont défrayé la chronique. Je pense que ça pose la question du droit à l'enfant, qui pour moi n'est pas un droit. Et pourtant, j'ai été dans ma famille personnellement concernée. Autant les fécondations in vitro, les micro-injections, etc., je trouve que la science peut aider. Mais par contre, louer le ventre d'une autre femme, je trouve ça mais absolument ignoble.
Et Geneviève de Parseval, envie de vous répondre.
Oui, madame, je respecte votre point de vue. Mais c'est un point de vue franco-français, si je peux me permettre cette expression. Il y a beaucoup de travaux dans le monde entier, en particulier aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud. Et je cite la phrase d'une grande spécialiste qui s'appelle Elena Ragonet, internationalement connue pour ses travaux sur la GPA, qui cite la phrase d'une mère porteuse. Ce bébé n'est en aucun cas le mien. Je lui ai fourni l'environnement nécessaire pour qu'il puisse naître et qu'il soit rendu, c'est moi qui insiste, rendu à son papa et à sa maman. La GPA gestationnelle, la mère porteuse, fournit l'environnement. Mais elle ne s'ampute pas. Par exemple, quelqu'un qui donne un rein s'ampute d'un rein et pour le reste de sa vie n'a plus qu'un rein. Là, elle prête son utérus le temps d'une grossesse.
Natacha Tatu.
Oui, moi j'entends ces critiques que j'ai entendues à plusieurs reprises. Néanmoins, moi ce qui m'a semblé important, encore une fois, je ne suis pas du tout militante de la GPA et mon livre ne fait pas l'apologie de la GPA.
Loin de là.
En revanche, ce qui est vrai, c'est que j'ai compris aussi la souffrance incroyable des femmes, par exemple, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui arrivent à la GPA non pas comme une facilité, comme on le dit quelquefois, parce que vraiment ce n'est pas une facilité, mais au bout de parcours extrêmement douloureux, ou alors des femmes à qui on a dit à 19 ans qu'elles n'auraient jamais d'enfants, pour une raison ou pour une autre. C'est quelque chose de terrible. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, encore une fois, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en Inde ou en Ukraine, je n'ai pas vu de femmes qui étaient d'une quelconque manière contraintes d'être gestatrices pour autrui. Et ça me semble très important.
Claire, réponse rapide. Je sens que vous fulminez derrière votre téléphone.
je trouve que vos deux interlocutrices pratiquent l'angélisme. Déjà, le discours est un petit peu orienté dans le sens où elle ne parle pas concernant la psychanalyse de gestation pour autrui, mais de maternité pour autrui. Pour moi, la maternité, c'est autre chose. Ce n'est pas que porter un enfant. Par ailleurs, on commence par porter l'enfant d'une autre. Après, on sait que certaines actrices le font parce qu'elles ne veulent pas s'abîmer le corps, entre guillemets. Donc, c'est une question pour certaines de confort. C'est des cas exceptionnels, mais ça arrive.
Claire, je vous propose d'écouter le professeur Friedman.
On va choisir le sexe, on va choisir son QI, on va choisir s'il est blond, ouais, s'il est brun, etc. Moi, je trouve ça profondément choquant.
Je vous propose d'écouter le professeur Friedman sur le sujet.
Tout d'abord, une réflexion. Votre thème sur la commercialisation, j'ai envie de dire d'abord, heureusement qu'en France, on a mis en place un système qui ne touche pas à la commercialisation du corps d'une façon générale, et qui développe donc une éthique de réflexion. Ça, c'est la première chose, et la PMA, en général, n'est pas concernée par cela, ne doit pas l'être. Alors maintenant, pour en revenir à la discussion de fond, c'est vrai que le problème de la maternité, regardez comment on peut avoir deux discours. Lorsque l'on s'adresse à un don d'ovocytes, la femme qui va recevoir un don d'ovocytes et qui est inquiète, de cette arrivée, je dirais, de l'au-delà. Elle a, elle va porter un enfant, donc génétiquement d'une autre femme et de son conjoint, et elle va faire tout un travail d'acceptation parce qu'elle sait que cet enfant, elle va lui donner son environnement, justement, qui va le créer tel qu'il est, puisque l'expression de ses gènes, c'est-à-dire l'épigénétique, va être liée à la, en partie à la gestation et bien sûr après à l'éducation, à l'élevage, à son amour qu'elle va lui donner. Donc là, on va dire, mais c'est pas très important que la génétique ne soit pas la vôtre. Ce qui importe, c'est votre intention et votre amour que vous allez développer, et puis surtout que grâce à vous, vous allez lui donner la vie. Alors que dans l'autre cas de la gestation, vous allez dire, ah non, mais alors là, vous n'avez aucun rapport, rien ne se passe, vous pondez votre œuf. Et puis, de toute façon, ça vous laisse aucune trace. Alors d'abord, ça laisse des traces sur le corps, ça laisse des traces dans le psychisme, et encore une fois, on ne peut pas oublier toutes les séquelles dramatiques de ces femmes que moi j'ai accouchées, parce que j'en ai accouché, à la différence de beaucoup, au début, et j'ai vu des catastrophes, des effondrements, quand il s'agissait d'abandonner l'enfant qu'on avait porté dans son ventre. C'est vrai que non seulement je m'occupe de reproduction, mais aussi de grossesse et d'accouchement, et que le lien qu'il y a, je le vis tous les jours, et c'est peut-être qu'il y a des exceptions, je dis bien peut-être, et dans ce cas-là, j'écoute Delphine Perceval, mais je veux dire, on ne peut pas considérer qu'on ne prend pas des risques énormes, et encore une fois, heureusement que la commercialisation n'est pas à l'ordre du jour dans notre pays. Peut-être qu'on est un îlot, on est peut-être le village gaulois, mais vous savez, les bonnes idées, comme par exemple lutter contre la peine de mort, ça part toujours d'un pays, et puis ça gagne progressivement. C'est un combat.
Geneviève Delezide de Perceval, une question par courriel. Passer 9 mois dans un ventre de location n'a-t-il pas un impact sur le psychisme de l'enfant? C'est une question évoquée par René Friedman.
Oui, alors déjà la formulation de la question, un ventre de location, bon...
De location entre guillemets.
Bon, ah très bien, je préfère les guillemets.
Ça passe mal à l'antenne, vous savez, les guillemets.
Oui, écoutez... Ça, on ne le saura que dans 25 ans. C'est pas la peine de lancer des imprécations à partir de rien. En tout cas, ce que je voulais répondre à René Friedman, c'est que la France n'a pas de leçon de morale à donner, parce que c'est la gratuité, qui est moi aussi un principe auquel je tiens, a des effets pervers, c'est-à-dire que ça, on envoie les gens à l'étranger.
Comment se créent les liens familiaux quand la procréation est issue d'un acte marchand?
Bon, alors marchand de nouveau, on peut prendre...
Quand ça coûte 100 000 dollars aux États-Unis ou 20 000 dollars en Inde, c'est quand même un acte marchand. Vous voulez appeler ça?
Toute la PMA est un business. Toute la PMA est un business. Le don de sperme, il y a un business autour du don de sperme parce qu'il y a des injections, des produits hormonaux. Les médecins sont payés. Je reviens pas sur le côté business autour de la PMA. Mais l'enfant, là-dedans, il n'est pas gêné par ce business. C'est un enfant qui est aimé par des parents qui l'attendent. Il est désiré.
Dans votre ouvrage, Natacha Tatu, vous revenez largement sur ce business, notamment du sperme et des ovocytes.
Comme le dit Geneviève Delcy, c'est vrai que il y a une industrie, c'est une filière industrielle. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? C'est une industrie avec des acteurs, des sous-traitants, des fournisseurs de...
Évoquez par exemple cette société danoise.
Alors voilà, le leader mondial du sperme se trouve au Danemark. C'est une société privée qui a été créée par un étudiant à l'époque en business school qui a décidé de se lancer dans ce business. Il est devenu leader mondial du sperme. Il exporte sa production dans 80 pays. C'est assez fascinant parce que si on va sur son site, en quelques clics, on rentre ses critères et on peut acheter du sperme très facilement, qu'on reçoit chez soi, un peu comme si on achetait un livre sur Amazon, on met au panier, on paye en ligne, on reçoit le sperme chez soi. Le fait que ça soit très facile, très ergonomique, que le site soit vraiment dédié, on choisit... les caractéristiques physiques, la catégorie sociale, on rentre un certain nombre de critères médicaux, etc. Et le logiciel crache des profils. Mais le fait que ça soit facile techniquement ne veut pas dire pour autant que c'est facile psychologiquement.
Qui sont les clients, entre guillemets, de ces sociétés qui vendent du sperme par Internet? Ce sont tous les couples, par exemple, qui n'ont pas droit à la PMA ou tous les individus qui n'ont pas le droit à la PMA en France?
Natacha Tatou.
Le premier segment de marché qui se développe, c'est ce que m'a expliqué le patron.
Vous parlez du segment de marché.
Oui, c'est un, bien sûr, parce que c'est un business. Ouais. Ce sont les femmes seules. C'est ce qu'il m'a expliqué. Il y a, évidemment, il y a des couples de lesbiennes qui n'ont pas droit à la PMA en France, mais ce sont pour l'essentiel des femmes seules qui ont entre 35 et 40 ans et qui commencent à avoir l'horloge biologique tournée et qui veulent un enfant.
Geneviève de Lisée.
Juste un mot à propos de Krios au Danemark. Je connais beaucoup de patients, des femmes seules, des couples hétérosexuels ou homosexuels. Leur choix, c'est parce que le Danemark pratique l'open donor, c'est-à-dire que l'enfant à sa majorité, avec le consentement au départ du donneur, pourra connaître son identité. Et ça, c'est un des problèmes, c'est un problème fondamental.
René Friedman, il existe un marché mondialisé de la PMA pour certains individus qui n'y ont pas droit en France ?
Non mais attendez, le problème c'est que on peut pas dire il y a la commercialisation parce que c'est pas possible en France. Ce qu'il faut c'est changer la situation en France, d'où le manifeste, pour que...
C'était le sens de ma question, professeur Friedman. Oui. C'était le sens de ma question.
Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait... sauf quelque chose que l'on ne veut pas faire, comme moi personnellement la GPA, les 70 000 tentatives de fécondation in vitro en France mériteraient d'être réajustées dans le cadre de la France, c'est-à-dire le don d'ovocytes particulièrement. Si on faisait un effort d'information, une liberté de l'information, on aurait beaucoup plus de donneuses en France et on pourrait répondre à la demande, en tous les cas une grande partie, au lieu justement de voir cette commercialisation parce que les gens sont obligés d'aller à l'étranger. Donc ce qu'il faut faire, c'est réformer la situation française pour que les gens ne soient pas obligés de tomber dans la commercialisation à l'étranger.
Natacha Tatou, le dernier chapitre de votre ouvrage, ça s'appelle « Demain, jusqu'où ira la marchandisation de la procréation ?»
Là aussi, ce mot de marchandisation me gêne un petit peu parce que...
Ah, finalement, ça vous gêne.
Mais dès lors qu'on parle de marchandisation, on a stigmatisé le sujet. Mais la vérité, c'est qu'il y a vraiment une révolution qui se passe et de lutte contre l'infertilité qui pourrait, à terme, selon certains scientifiques, peut-être même déboucher sur un monde où finalement... Peut-être n'aura-t-on plus d'enfants par les voies les plus naturelles. Peut-être. Ah. Encore une fois, c'est toujours hasardeux de se livrer à ce genre de spéculation sur la vie.
Très vite, Geneviève,
il faut changer le système. La loi bioéthique en France est tout à fait inadéquate. Il faut la changer.
Merci beaucoup, Natacha Tatou. La fabrique des bébés est publiée chez Stock. Merci, René Friedman. Le droit de choisir vient de sortir au Seuil. Et merci également, Geneviève Delizy de Parseval. Voyage au pays des infertiles est publié chez Odile Jacob. Demain, une émission consacrée à la luxure avec l'historien André Roche, qui consacre un ouvrage passionnant à ce péché capital. Et nous recevrons également Isabelle Motreau, qui consacre un hors-série du mensuel Cosette au clitoris. À la technique ce matin, Henri Bérec et Anne-Laure Cochet.